J'ai tout appris de la nuit.
Dans les yeux de Jacques Lucéran. Un feuilleton en 5 épisodes de Anne Cibran.
Je crois qu'il vaut la peine de dire comment on aime la vie et qui vous a appris à l'aimer. Il me semble même que cela peut être une chose utile à quelques autres quand celui qui parle est devenu aveugle à 8 ans et s'est trouvé à 20 ans dans un camp de concentration nazi.
Épisode 1. La grande initiation.
Cette nuit encore, je ne dors pas. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre sous les toits. Assise devant cette mer de tuiles, je pense à l'Ukraine, entrée en guerre depuis 2 jours. Ici, le vent est presque tiède, chargé des rumeurs de la ville, du rire des jeunes filles, de chauves-souris et de fumée. Mais le vent me porte aussi, de façon plus sournoise, le fracas des bombes avec le fer broyé, les coups de feu, les débandades. La vieille accroupie dans la cave et qui chantonne sans relâche dans l'oreille du petit pressé à son épaule. Le chien plaintif et la bougie soufflée. Car le vent s'imprègne de ce qu'il frôle pour le promener partout. Au point que je respire maintenant le chagrin des forêts. La mer salit, trop lourde pour déployer la vague. La montagne arasée et la bête piégée. Depuis 2 jours, je ne dors pas. Ce désastre de trop sur la balance. J'ai basculé de l'autre côté. Je ne vois plus que le malheur. On dirait qu'il parle plus fort que le rire des jeunes filles, que ce printemps qui s'insinue pourtant dans la tiédeur des nids. Je descends marcher dans Lyon. La Saône est lisse. Le reflet des réverbères ouvre un chemin de pierre rousse jusqu'à ce noir profond sous le pont, comme une porte, un passage. Soudain, il est là. L'aveugle magnifique, assis près de moi sur le banc. Je l'aperçois vêtu de ce costume un peu trop large, comme sur le portrait qu'a peint de lui son ami Jean Hélion. Avec ce visage anguleux, recueilli, éperdument tendu vers ce qui fait mon silence, cette grande sidération. De tout ce qu'il fut, de tout ce qu'il a laissé en moi, je le sens qui m'écoute. Jacques Lucéran. On raconte que ses ancêtres, des Landais, promenait la lumière de nuit dans les campagnes, la luce errante, comme on disait alors, ce qui leur a donné ce nom. Porte-falots, ils accompagnaient jusqu'au seuil de leur maison ceux qui ne savaient cheminer seuls dans le noir, ou s'étaient égarés. Jacques ignorait qu'il allait devenir celui qui, dans une période bien plus obscure encore, allait tenir la lanterne pour d'autres, sans rien perdre de sa force d'engagement et surtout de sa joie. Ce 26 février 2022, sur un banc de Lyon, je réveille la mémoire d'un écrivain, d'un penseur, mort trop tôt, un 27 juillet 1971, âgé de 46 ans à peine, dans un accident de voiture. Et de l'invoquer seulement, quelque chose en moi se relâche. Je retrouve un mouvement. J'ai découvert Jacques Lucéran il y a plus de 20 ans, place du Panthéon, dans la forêt Sainte-Geneviève. les bibliothèques habitent l'espace entre les arbres. Sous la lumière tamisée des tables de lecture, chaque page que l'on tourne, chaque mot chuchoté densifie le feuillage invisible qui bourdonne en haut des colonnes de fonte, sous les voûtes de la canopée. J'étais venue faire des recherches pour un roman sur les aveugles. Assise devant l'écran, j'épluchais une liste interminable quand je suis tombée sur ce titre. « Ce que l'on voit sans les yeux ». C'est ainsi que j'ai reçu cette liasse de feuilles tenue par une agrafe rouillée. J'ignorais que c'était la première publication de Jacques Lucéran, que ce texte avait été tapé à la machine par sa femme, Jacqueline Pardon, qu'elle avait sans doute relu pour lui ses pages à voix haute, car certaines d'entre elles étaient annotées au crayon. Je me souviens précisément du moment où j'ai plongé dans ce livre. Ce tapuscrit austère, je l'ai lu et relu ce jour-là, comme on joue à faire chanter du bout des doigts le buvant d'un verre de cristal. Pour cette mélodie mystérieuse qui dessine les confins d'un monde. Jamais jusqu'alors personne ne m'avait parlé de la vie intérieure avec autant de précision.
Laisse-moi te dire ces choses. Elles sont trop peu connues et, venant d'un aveugle, elles ont une petite chance de retenir ton attention. Les yeux font les couleurs. Bien sûr, pas les yeux physiques, ceux de l'ophtalmologie. Ces deux organes fragiles ne sont que des miroirs. Les deux miroirs brisés, les yeux continuent de vivre. Ceux dont je veux te parler, les vrais yeux, travaillent au-dedans de nous. Tant pis si le vocabulaire fait défaut. Voir est un acte fondamental de la vie, un acte indéchiffrable, indestructible. Voir, c'est un mouvement que la vie fait en nous, avant les objets, avant toute détermination extérieure. C'est au-dedans de toi que tu vois. Si la lumière extérieure ne nous était donnée d'abord, jamais nous ne pourrions admirer les couleurs du monde. Voilà ce que je sais après 25 ans de cécité.
Je me réveille avec encore en moi la présence de l'aveugle. De penser seulement à toi, Jacques Lucéran, t'imaginer à mes côtés, me donne un peu de distance face aux tragiques nouvelles d'Ukraine. Scandé par la radio. Il ne s'agit pas d'éviter ce qui se passe dans le monde, bien au contraire, mais de ne pas y laisser mes forces, ne pas m'agglutiner au drame.
J'ai cela de bon, ma vibration. Je puis bien le dire car je sais qu'elle ne m'appartient pas.
J'avais un jeu, enfant, quand je vivais une grande joie. Je me faisais bâiller pour réveiller ce son que j'entendais vibrer entre mes oreilles. C'était comme surligner l'instant, lui donner une musique intérieure.
Je sais aussi qu'elle ne durera pas, cette vibration, à moins naturellement que je lui donne de l'exercice.
Cette vibration, je l'ai sentie aussitôt que je t'ai rencontrée dans la forêt Sainte-Geneviève. Il y a ceux qui nous ramènent vers le passé avec toutes les obsessions de la nostalgie, et ceux qui nous nourrissent, travaillent à nous faire vivre, aujourd'hui. Ce que tu fus, mon cher Jacques, je le reçois du fond de mon présent, dans cette cuisine de Lyon avec la radio allumée. Comme tu dirais, c'est tout le mystère et toute la puissance des êtres qui servent autre chose que leur personnage provisoire. On ne peut pas les éviter. La vie de Jacques Lucéran ressemble à un conte, avec cette acoustique plus large, ce côtoiement du redoutable et du merveilleux. Comme dans les contes, Jacques connaît d'abord une terrible initiation. À l'âge de 8 ans, en mai 1932, il perd la vue à l'école, poussé sur un coin de table. On sait très peu des semaines qui suivent l'accident. Rien sur les douleurs, les pansements, les chutes, les trébuchements. Toute cette chorégraphie nouvelle dans sa maison, par-delà les souffrances du corps qu'il lui faut inventer. Accompagné de parents magnifiques, il se rétablit rapidement, apprenant le braille avec sa mère pendant l'été, puis reprenant l'école dans la même classe à la rentrée. Même si je soupçonne des moments d'opacité, j'ai la sensation que, pour violent que fût le choc, Jacques ne s'y est pas arrêté. Est-ce qu'il devinait déjà l'ouverture incommensurable qu'il allait vivre quelques semaines après ?
Un jour, je me souviens, c'était quelques mois après l'accident, j'étais dans le jardin public du Champ de Mars. Je cherchais le soleil et j'ai changé de direction. Au lieu de chercher dehors, je me suis mis à regarder de plus près. Plus près de moi. À regarder de l'intérieur vers l'intérieur. Alors j'ai vu. Le soleil était là. Il éclatait dans ma tête, ma poitrine, avec sa flamme intacte, joyeuse, qui venait battre contre mon front. Je le cherchais dehors, quand il m'attendait chez moi. Il était là, mais il n'était pas seul. Je vis aussi la tour Eiffel et ses pattes tendues en haut du ciel. L'eau de la Seine, tout était là, venu je ne sais d'où. On ne m'avait rien dit de ce rendez-vous de l'univers chez moi. Car sans mes yeux, je voyais.
Une expérience intérieure s'incarne dans la chair de celui qui la vit. Ce qui la rend sacrée. Aussi mystérieuse put-elle nous sembler, exempte de tout jugement. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle contamine parfois celui qui ne l'a pas vécu, au point qu'il y adhère ?
Dans ce jardin public, par un dimanche matin, j'ai découvert que je baignais dans la lumière.
Par quel canot mystérieux le récit de l'autre vient-il m'amplifier ?
Je pouvais la sentir naître, cette lumière, se répandre, se poser sur les choses, leur donner forme et se retirer.
Qu'est-ce qui fait que la vie dans son expérience à lui attise la vie en moi ?
Toute chose qui venait à ma rencontre était aussitôt vue et non touchée ou entendue. Voir devint pour moi une activité extraordinairement simple d'où je tirais une sensation de paix, d'équilibre même.
Jacques perd nos yeux d'abord. Cette façon machinale d'ouvrir les paupières pour recevoir la lumière sans se poser de questions. Et voilà que, devenu aveugle, il découvre cette autre façon de voir, qui nous est accessible aussi, mais dont nous faisons moins usage, car ce regard du dedans, miroir de l'âme, est bien plus exigeant.
Cette lumière que je percevais variait selon mon état intérieur. Si j'étais triste, si j'avais peur, toutes les teintes devenaient sombres et toutes les formes vagues. Si j'étais joyeux, attentif, toutes les images s'éclairaient. La rancune, le scrupule noircissaient tout. Une intention généreuse, une décision courageuse, jetait un immense coup de projecteur. Peu à peu, je compris qu'aimer, c'était voir, et que haïr, c'était cela la cécité, la nuit. Je sentais donc qu'il y avait deux mouvements. Ou bien refuser le monde et c'était l'obscurité, c'était les chocs, ou bien l'accepter et c'était la lumière et la force.
L'expérience de l'autre fait mouche lorsqu'elle éclaire un aspect de sa propre vie. Si mes yeux ordinaires continuent de recevoir la lumière, je sens que je refuse le monde. J'ai fermé mes paupières du dedans.
Le 12 mars 1938, j'avais 13 ans, et comme chaque soir, je tournais les boutons de la radio pour faire mon petit tour d'Europe, quand je suis tombé sur la fréquence de Radio Vienne. L'allemand était défiguré, au point que je ne reconnaissais plus ses mots. Ce soir-là, L'histoire se jette sur moi. Elle a le visage des assassins. J'ai compris que la guerre allait revenir bientôt.
Alerté par ce qu'il entend, Jacques Lucéran décide d'apprendre l'allemand 2 heures par jour. Il veut être à même de reconnaître le vrai visage de la langue, ne pas confondre le chant harmonieux de Goethe, de Rilke et de Schiller avec ce verbe grimaçant des meetings de la haine sur le champ de foire de Nuremberg. Voir pour lui, ce n'est pas seulement abriter ce théâtre intime où le monde extérieur se reconstitue, c'est aussi avoir accès à ce miroir plus vaste où l'âme des hommes vient se refléter. Le jeune aveugle comprend ce soir-là qu'il est des obscurités bien plus opaques encore que celles qui le prennent parfois dans ses colères ou dans ses peurs. En s'appliquant à rétablir chaque matin le circuit de la lumière, il ne soupçonne pas qu'il développe une acuité qui ouvre en lui un destin. Ce soir-là, à 13 ans tout juste, Jacques Lucéran perçoit, avant la plupart de ses contemporains, que l'humanité est en train de basculer dans sa nuit. Quel mot la mère a-t-elle chuchoté à son enfant, dans la foule, sur ce quai de gare, pour lui donner la force de traverser un pays en guerre, marcher seul vers l'inconnu.
Mars 2022. Un jeune Ukrainien de 11 ans parcourt plus de 1000 km avec pour seul bagage un sac de plastique avec son passeport, un numéro de téléphone écrit sur la main. Orphelin de père, il vivait avec sa mère et une grand-mère handicapée, à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijja. Redoutant que la centrale n'explose, sa mère a décidé de l'envoyer chez des parents éloignés à Bratislava, en Slovaquie.
Peut-être a-t-elle dit simplement « Je serai partout avec toi ». Dans des moments pareils, le sens importe peu. Il faut juste des mots où poser la vibration du cœur. Offrir à l'enfant comme des bonbons en litanie, se concentrer de tendresse à libération prolongée.
Et ils ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression...
On arrive place des Graviers, la reine n'est plus très loin. Viens, on va s'asseoir à l'ombre des mûriers pour attendre le bus.
Je me souviens de ce 2 septembre 1939 à Tournon. La guerre venait d'être déclarée. Je traversais la place du marché, ça sentait la pêche et l'oignon. On rentrait de vacances. Mon ami Jean me tenait par le bras.
Quelques hommes en uniforme discutent devant les affiches de mobilisation générale. Un peu plus loin, à côté des charrettes, il y a des femmes qui sont assises sur un banc. Il y en a une qui s'essuie tout le temps le visage avec son tablier. Les enfants jouent à leurs pieds. Sur ta droite, des anciens sont assis en cercle tout près de nous. Tu les entends ?
Oui. Je crois qu'ils parlent de 14-18.
Au fond, est-ce que cette guerre nous concerne ? On n'a que 15 ans. Pour l'instant, on est à l'abri. Si elle dure un peu plus, alors je m'engagerai. Toi au moins, mon cher Jacques, tu es hors du coup.
Tandis qu'il parlait, je songeais à la voix de ces foules dans les rassemblements nazis. Cette voix sortie du monde des hommes. Il faudrait qu'elle se taise, ou moi, je ferais quelque chose. Je me sentais agité, pris entre ma passion et le sens du ridicule. Un gamin de 15 ans, un gamin aveugle, et de l'autre côté, Hitler et son peuple. Enfin, je finis par répondre.
Jean, je ferai la guerre moi aussi. Je ne sais pas comment, mais je t'assure que je la ferai.
Et je sentis qu'il me croyait. Quand Pétain a décrété l'armistice, j'ai senti qu'il se trompait. Le lendemain, nous écoutions avec Jean l'appel du 18 juin, l'oreille collée à la radio. Et nous avons dit oui sans le plus léger doute. Nous étions entrés dans le sérieux de la vie, comme un clou bien frappé entre dans le bois. Cela tenait. Ce que nous avions dans la tête, dans le cœur, nous l'appelions la liberté. La liberté de choisir sa croyance, son mode de vie, de laisser les autres choisir les leurs, celle de refuser de faire le mal. Mais quel besoin de s'expliquer là-dessus. La liberté.
Asseyez-vous. Messieurs, je vous demande de m'écouter, pas de m'obéir. Ce pays va crever si tout le monde obéit.
Mon professeur d'histoire au lycée Louis le Grand s'appelle Pierre Favreau. Il est jeune, de petite taille et ne tient pas en place.
Toi, que penses-tu de la conduite impeccable de l'armée d'occupation ?
Impeccable ? Vraiment ?
J'espère que vous avez entendu parler du général de Gaulle. Parce qu'il va vous falloir désormais tout savoir, tout comprendre. Hitler, Pétain, l'Amérique, l'URSS, le Japon. Bientôt, vous devrez pouvoir me dire où il y a du charbon, de l'acier, du pétrole dans le monde.
Sa voix est souple et chaude. On dirait une bête vivante. Elle a un geste dans chaque mot.
Ah, une dernière chose. Dans cette classe, il y a un traître. Je sais qu'il est prêt à rapporter tout ce qui se dit ici. Ceci étant dit, poursuivons, je vous prie.
Une onde brûlante parcourt ma colonne vertébrale. Il me semble que je revis. Mais comme tous les jeunes de mon âge, je suis devenu inquiet. Une inquiétude plus complète que celle des adultes, qui ne consistait pas à se demander qui gagnerait la guerre ou quelles seraient les restrictions alimentaires. Nous voulions apprendre à vivre. C'était bien plus grave. Nous voulions apprendre très vite, parce que nous sentions que demain, il serait sans doute trop tard. Il y avait des signes de mort sur la terre et dans le ciel, de la frontière d'Espagne à celle de Russie. Le 11 novembre 1940, il y avait eu sur les Champs-Élysées la première et la seule manifestation où des étudiants avaient dit non à l'Allemagne. Le lendemain, à l'aube, une vingtaine d'entre eux étaient fusillés.
Check-in Avdiivka. Poème écrit par Irina Tsilik, poétesse ukrainienne partie dans le Donbass.
27 octobre. Une classe. Là où tout le monde est bossu, se tenir droit est une anomalie. Est écrit au tableau dans une école d'une ville frontalière. J'ai la mauvaise habitude de lire tout ce qui me tombe sous les yeux. L'école est le pays des connaissances. Chaussures de réchange obligatoires. Abri à 45 mètres. Nous vous invitons à entrer dans un conte. Si tu vois une mine, ne t'en approche pas, ne touche pas, appelle le 101. Une prière est une langue d'amour. Abri à 20 mètres. Abri à 10 mètres. Abri à 3 mètres. Ce n'est que dans l'abri sous l'école que je n'ai plus vu d'inscription. 28 octobre. Les maisons aux entrées ouvertes sont toujours habitées. Yeux noirs de leurs fenêtres touchées par les tirs. C'est bien écrit sur certaines portes. Ici habitent des gens. Il n'y a rien à prendre. Prière de ne rien casser. Il n'y a rien, juste des gens. Prière de ne pas les casser davantage.
Les enfants d'un pays heureux n'en finissent pas d'être des enfants. Mais ceux d'un pays qui souffre sont des hommes déjà avant même qu'ils ne l'aient désiré. Ils ont encore leur bouche de 10 ans prête à la moue du chagrin, de l'eau claire dans les yeux, de l'encre sur les doigts. Pourtant, ils sont des hommes, déjà, avec une passion de comprendre et de faire qu'il faut assouvir tout de suite. Ils ont 1000 fois plus d'interrogations qu'il n'existe au monde de réponses.
En cet hiver 1940, Paris a le visage grimaçant.
une bouche tordue à la laine pestilentielle. Toutes les peurs, tous les maux empêchés flottent dans les rues comme des fantômes. Ils piquent le visage. On les entend gratter sur le cuir des manteaux. Ils rendent les pavés glissants. Une épidémie de lâcheté s'est répandue dans les sueurs, la moiteur d'une main, le posé d'un talon. Les adultes se taisent. L'indécence habite les silences. Les jeunes sont devenus sérieux.
La journée est finie, je ne vous retiens pas. Vous pouvez rentrer chez vous. Pour ceux qui souhaitent rester, nous allons sortir un peu du programme académique.
À part les deux traîtres, tous restaient dans la classe de Pierre Favreau. Par lui, nous sûmes quels étaient les vrais responsables de l'incendie du Reichstag. Nous apprîmes la création de Dachau, avec cette organisation scientifique de la cruauté.
Car la France, ce n'est pas qu'un pays, mais une façon de vivre. Et l'Allemagne, malgré sa Gestapo et sa Wehrmacht, n'est pas le tout du problème, mais seulement un morceau. Il vous faut regarder par-dessus les frontières, parce que les frontières sont les baleines d'un vieux corset qui va craquer. Messieurs, cette guerre n'est pas une guerre nationale. Il n'y aura plus de guerre nationale. Mettez-vous bien ça dans la tête. Le monde est un. Cela n'est peut-être pas confortable, mais c'est un fait. Et tout nationaliste est un attardé, un vieux crouton.
Le monde est un. Je passe sous la ligne de flottaison du regard. La guerre d'Ukraine. Nouveau naufrage d'un bateau de migrants. Je cherche, comme une nappe phréatique, cette rétine plus vaste où tiendrait à boucher, réaccorder enfin et l'homme et le vivant. La moitié du verre d'eau que je remplis ici vient des forêts d'Amazonie. Le monde est un. Nous sommes, pour reprendre les mots de Tom Van Doren, dans ce grand enchevêtrement. Comment, dans ce faisceau de fermeture, de cécité subite, tenir le fil d'or de la vie.
J'ai tout appris de la nuit.
Dans les yeux de Jacques Lucéran. Un feuilleton en 5 épisodes de Anne Cibran. Avec
Audrey Bonnet,
Sylvain Levitte,
Charlie Faber,
Jean-Baptiste Verquin,
Antoine Berry-Roger,
Ranna Cousina,
et les voix de Ludovic Bouchneb, Terence Prévost-Gombert, Victor Mermaz, Sam Chemoul, Florian Eustache et Léo Sainton. Bruitage, Sophie Bissens. Musique originale, Anthony Capelli. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Pierre Henry, Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Laure Egorov. Claire Lucéran a mis à disposition d'Anne Cibran pour l'écriture de ce feuilleton un large corpus de textes de Jacques Lucéran, référence complète à retrouver sur notre site franceculture.fr.